Il est 9h41 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'est dans l'air, 17h45, la locomotive d'audience de France 5, chaîne qui frôlait à la rentrée l'accident industriel avec le départ précipité d'Yves Calvi sur LCI. Caroline Roux a repris l'émission et manifestement, elle ne manque pas d'oxygène. Faut dire que l'époque brasse de l'air comme jamais. Bonjour Caroline Roux.
On brasse pas que de l'air. Hein.
C'est ça, ça fait beaucoup d'air. Oui, voilà, beaucoup d'air. Plus de radio, vous avez quitté Europe 1, deux exercices télé en cette saison, l'interview politique du matin sur France 2, les 4 vérités, et c'est dans l'air sur la 5, bref, à la croisée de l'actualité électorale et sociétale.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Et du coup, on en profite, Caroline Roux, on commente avec vous l'actualité médiatique du jour, actu politique aussi, parce que les deux sujets se télescopent allègrement et quotidiennement. Alors, on commence avec Emmanuel Macron, en visite à l'usine Whirlpool. On va pas en faire un commentaire politique, ça s'est fait dans toutes les éditions d'Inter depuis ce matin. En même temps, c'est un cas d'école en matière de champ contre champ médiatique. Le champ, ce sont les huées qu'il reçoit à son arrivée, après celle de Marine Le Pen. Les télés sont là, la séquence est partout. Le contre champ, c'est Macron sortant les journalistes du champ, diffusant lui-même sa rencontre avec les ouvriers sur Facebook Live, un contre-champ que les chaînes d'info vont reprendre, il le sait pertinemment.
Ce qu'on a à faire collectivement pour le pays, une montagne. Donc moi je viendrai toujours sur les sites, et je reviendrai sans les caméras, vous voyez bien je leur ai dit ce matin, pour vous rendre compte.
Mais après les élections ?
Non mais, bien sûr, je viendrai après les élections.
Même si vous perdez ?
Oui, même si je perds.
Séquence diffusée sur BFM TV avec ce bandeau en haut à droite de l'image, image fournie par le candidat. Et là, on sent que les choses changent.
On atteint le paroxysme de ce qui était annoncé, c'est-à-dire une vie politique qui s'écrit en live. Cette journée, elle était absolument incroyable. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez suivi en direct, mais on a vécu ça avec des candidats qui ont utilisé le système à plein. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pouvoir, parce que malgré tout il y avait des journalistes qui ensuite après ont donné leur lecture, mais c'était un scénario de film qui se jouait devant nous avec des candidats, Marine Le Pen qui joue l'effet de surprise, Emmanuel Macron qui arrive, la scénarisation, le psychodrame, la foule, le mégaphone. Et puis les images récupérées par l'équipe du candidat en live. Et là, ce matin, quand je me suis, j'ai fait deux pas en arrière en me disant à quoi on a assisté hier. On a assisté, je crois, vraiment à un changement de, peut-être pas un changement d'époque, c'est un peu fort. Mais en réalité, on est allé au bout.
C'est quand même un changement d'époque. C'est-à-dire, on l'a très bien entendu dans l'extrait qu'on vient de diffuser. C'est-à-dire, quand les ouvriers disent à Emmanuel Macron, vous êtes là, même s'il n'y a pas les journalistes, il leur répond, mais les journalistes, je les ai sortis. Or, il est sur Facebook Live et il sait très bien que les journalistes vont récupérer ces images. Donc, c'est assez...
Après, les journalistes, ils continuent à faire leur job. Ils continuent à récupérer ces images qui sont des images brutes et en faire des commentaires. Et après, en faire une lecture politique et à dire oui ou non, qui a emporté la séquence. Il y a toujours de la place pour l'interprétation de l'image brute. Mais effectivement, c'était assez incroyable de se dire... On avait imaginé que cette campagne allait se jouer sur les chaînes d'infos et sur les réseaux sociaux.
Absolument.
Et ben, c'est ça qui s'est passé hier. Ça ne veut pas dire que les médias traditionnels ont perdu la main. Pas du tout. Hein, et ça, on peut en reparler. Mais hier, on était vraiment dans le paroxysme de ce mouvement qui avait déjà été un peu amorcé.
Christian Estrosi est notre invité ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints.
Voilà Audrey Pulvar qui est votre consoeur. Elle apprenait hier soir par l'AFP sa suspension de la chaîne CNews, filiale du groupe Canal, jusqu'au 7 mai manifestement. Elle a donc signé la pétition lancée par Laurence Rossignol, ministre de la Famille, et titrée, je cite, « Féministe, nous ne voulons pas du Front National, nous votons Emmanuel Macron ». La chaîne a pris cette décision au nom, je cite toujours, de l'impartialité du devoir de réserve qui incombe à une journaliste politique. Audrey Pulvar anime, je le précise, entre autres, le grand journal de la présidentielle. Et ça aussi, ça vous fait réagir ?
Bien sûr que ça me fait réagir, ça m'interpelle. La question que je me suis posée quand j'ai vu passer cette info, c'est que je me suis dit, est-ce que les règles étaient claires avant ? Est-ce qu'Audrey Pulvar, elle savait qu'elle ne pouvait pas signer cette pétition ? Est-ce que les choses avaient été bien établies avant ? Après, moi, je m'astreins, parce qu'on est dans une période, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se raconter d'histoire, on est dans une période où il y a de l'hystérie, il y a de la colère vis-à-vis de nous, de vous, de moi, des journalistes, du système, et qu'on est toujours suspect. d'être impartiaux, d'être macroniste et puis mélenchoniste. Et puis moi, chaque jour, je me fais insulter sur les réseaux sociaux de chaque côté. Donc j'ai pris le parti de rester le plus possible en retrait.
Alors, sur mes convictions. Pour le coup, est une tradition française. À l'exception de Jean-Jacques Bourdin, qui a dit plusieurs fois pour qui il avait voté, c'est extrêmement rare.
Mais oui, mais du coup, je m'astreins. C'est pas facile. On est dans un entre-deux-tours qui interpelle. La citoyenne que je suis, et sans doute vous, et sans doute chacun des personnes qui écoutent France Inter ce matin. On a envie à un moment donné de porter un propos fort, de faire un post sur Facebook, sur Twitter, pour dire, voilà, pour faire passer un message politique auquel on croit. Mais je m'astreins à cette neutralité-là, parce qu'en ce moment, il y a de la colère, il y a de l'hystérie.
Voilà. On continue.
Mesdames, messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTS pour le second tour de cette élection. C'est donc un grand événement sans précédent à la télévision française.
Vous vous souvenez de Jacqueline Baudrier? Elle co-animait le premier débat de la présidentielle en 1974 aux côtés d'Alain Duhamel. Gilles Boulot et David Pujadas devaient modérer celui de mercredi prochain. Le CSA a réellement insisté, j'ai vérifié auprès d'eux, pas seulement une interprétation. Pas de femmes dans un moment de télé aussi crucial et aussi regardé. Les états-majors des candidats ont abondé. Les deux visages du 20h de TF1 et France 2 ont dû céder leur place au chef des services politiques des deux chaînes. Alors du coup, ce sera Christophe Jacubizine pour la une, Nathalie Saint-Cricq pour la 2, ouf, il y avait une femme dans l'eau, ça tombait bien, et ça vous fait réagir comment?
Alors il y a beaucoup de choses dans cette histoire. D'une part, ceux qui ont été sélectionnés, Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jacubizine, sont deux professionnels, patrons des services politiques, qui sont totalement aptes et qui seront parfaits dans cet exercice-là. L'exigence de parité, elle est partout, tout le temps. Que le CSA porte une exigence de parité dans un moment qui va être regardé par plusieurs, il y aura sans doute 10 millions de téléspectateurs à ce moment-là, moi ça me choque pas. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est quand je lis ce matin dans Le Parisien, alors je ne sais pas si ça s'est effectivement passé comme ça, c'est qu'il y aurait les partis politiques auraient eu leur mot à dire sur le choix des journalistes. Si ça s'est effectivement passé comme ça.
Alors là, les partis politiques ont toujours leur mot à dire dans l'organisation d'un débat, ça se fait
oui,
avec.
Oui, mais dans le fait de choisir et de récuser des journalistes, si ça s'est vraiment passé comme ça, je suis étonnée, quoi, voilà, pour le moins.
Et après, le fait qu'on choisisse un journaliste en fonction de son sexe, ou pourquoi pas de la couleur de sa peau.
Ça, ce ne serait pas la première fois. Et c'est une bonne chose, et à un moment donné, il faut du volontarisme, il faut de l'engagement. Moi, je vais vous dire, chaque jour, sur C'est dans l'air, je me bats pour ça, avec Bruce Toussaint, avec toutes les équipes de Maximal. Alors, certains peuvent dire, ah bah oui, mais bon, quand même, est-ce qu'on choisit les experts en fonction de leur sexe? Oui, parfois oui.
Oui, parfois oui,
parce qu'il faut le faire.
Ce qui est intéressant, c'est que le CSA publie chaque année un rapport Caroline Roux sur la présence des femmes ou non sur les antennes, que France 5 est arrivée en dernière position des antennes de France Télévisions, et qu'il y avait une mention, avec 64% d'hommes, et qu'il y avait une mention spéciale sur C'est dans l'air, qui a toujours été très critiquée là-dessus. 29% de femmes invitées autour du plateau chez vous, contre 26% l'année précédente.
On se bat et je peux vous dire qu'on le fait avec sincérité, engagement, chaque jour. Il y avait du retard qui avait été pris et beaucoup de retard parce qu'on est sur une émission où on manie l'expertise. Et il y avait une époque où on nous expliquait que les experts, c'était toujours les mêmes, c'était des hommes, etc. Et il y avait une génération de femmes qui n'osaient pas également se mettre en avant. Donc il y avait d'un côté l'absence de volontarisme suffisant, ça il faut le reconnaître, il faut l'assumer, ce qui a changé, je tiens vraiment à le dire ce matin avec force. En plus, c'est vraiment des convictions que je porte, donc ça me blesse à chaque fois qu'on parle de ça, parce que je me dis que je veux qu'on soit encore mieux. Mais en même temps, il y avait aussi chez les femmes, et c'est un défaut qui est bien connu, une forme de réserve à se dire, est-ce que vous êtes sûre? Moi, je suis spécialiste de telle partie de l'histoire de la vie politique, est-ce que je peux intervenir sur tout? Il y avait une forme de réserve. Ça, et je vais vous dire, c'est vraiment l'enseignement de cette année qui est extraordinairement optimiste, c'est que ça change. C'est qu'on a fait monter une génération de femmes qui sont des expertes extraordinaires et qui aujourd'hui disent la place, elle est pour moi. Et oui, bien sûr que je viendrai sur le plateau.
Et par ailleurs, France 5 a choisi une femme pour remplacer Yves Calvi. Je précise que Bruce Toussaint, vous en parliez, prend la suite en fait le vendredi et qu'il a installé le samedi. Vous êtes là du lundi au jeudi. Mais quand même, j'ai lu tous vos portraits, Caroline Roux, dans la presse avant de vous recevoir, et j'adresse un petit quiz. Je vous propose un quiz aux auditeurs de France Inter. Savez-vous combien David Pujadas a de mômes? Savez-vous si Jean-Jacques Bourdin a des gosses? Savez-vous si Patrick Cohen a des petits ou des grands-enfants à la maison? En clair, l'avez-vous déjà lu dans les nombreux portraits que la presse ont consacrés à Bourdin, à Cohen, à Soto, à Pujadas et aux autres? Dans vos portraits, Caroline Roux, ça commence systématiquement comme
elle
ça.
Il y a quatre enfants.
Il y a quatre enfants à la maison et on connaît par cœur le prénom du petit dernier, etc. Vous trouvez ça normal? Vous jouez le jeu.
Franchement, il y a d'autres trucs qui me choquent plus que ça. Franchement.
Non, mais les portraits de femmes journalistes, c'est tout le temps les mêmes mots. Ah, c'est une bosseuse. Ah, c'est une boulimique de travail. Ah, c'est une accro à l'info. Comme s'il fallait. Mais quand même, elle arrive à rentrer à la maison et à gérer quatre enfants.
Oui, bon, il y a un côté un peu, il y a un côté un peu misogyne dans cette façon de considérer la femme au travail.
Oui.
En même temps, faut pas se tromper, c'est une réalité de toutes les femmes qui travaillent. Et voilà, moi, ça, sincèrement, c'est pas ce qui me choque le plus dans la façon de voir la femme journaliste. Ça me choque pas. Quand je lis les portraits, je me dis, bah oui, j'ai quatre enfants, d'accord, ok.
Vous ne vous y refusez pas?
Non.
Ouais, d'accord, non. Ok. Allez, hop, on continue.
L'instant M avec Sonia De Villers.
On va parler de C'est dans l'air et on va vous écouter présenter une émission de C'est dans l'air qui a battu l'un de vos nombreux records d'audience.
Il a réussi un pari fou. Il a déjoué toutes les règles politiques, défié le système, les sondages, résisté parfois aux ricanements des chefs d'État étrangers. Donald Trump est donc devenu le 45e président des États-Unis.
Voilà, vous à l'antenne dans C'est dans l'air. Le questionnement est sensiblement différent par rapport à l'époque Yves Calvi.
Ah bon?
Oui, non, vous le trouvez pas? Nous, on avait l'impression que Yves Calvi avait une idée très 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 précise de là où il voulait arriver, quasi une obsession, et qu'il conduisait tout le débat vers là. Vous semblez beaucoup plus pédago, beaucoup plus ouverte dans votre façon d'aborder les sujets.
Alors, moi, en fait, je me nourris de C'est dans l'air. C'est-à-dire, je vais vous faire rentrer un peu dans la coulisse de la préparation de l'émission. En général, je me fais un canevas avec les rédacteurs en chef de cette émission, assez précis, du questionnement, de l'ordre, des sujets tels que je les imagine. Tout explose à la première question.
Ouais.
Parce qu'en réalité, j'ai sur le plateau des gens qui ne sont pas des chroniqueurs.
Non.
Qui sont des gens qui arrivent avec une vraie richesse, une vraie expertise. Donc, moi, j'ai pris le parti, comme le font les téléspectateurs, de me nourrir d'eux, d'être dans l'accompagnement, dans l'écoute, plus que dans la conduite d'une ligne ou d'un canevas que j'aurais tricoté à l'avance, un peu hors sol. Je me nourris vraiment de la richesse des intervenants.
Et alors, parfois surgit dans cette émission des choses auxquelles vous ne pouviez pas vous attendre. L'affaire Théo, vous invitez dans C'est dans l'air, Luc Poignant, délégué syndicat unité CGP Police à Paris. On écoute ce qu'il dit sur votre plateau, vous réagissez immédiatement.
Bon, Boula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable.
Non.
De l'autre côté, enculé de flic, c'est pas convenable non plus.
Non, dans les deux sens, ça n'est pas convenable.
Mais d'accord, mais c'est la conversation qu'il y a entre les deux. Ouais. C'est ça le problème.
Réflexe immédiat de votre part. Est-ce que c'est la hantise, Caroline Roux? Mais vraiment, on se pose tous la question. Hein. La hantise de l'animateur en direct de ne pas avoir la présence à l'esprit de dire non.
Bien sûr. Bien sûr que c'est la hantise. Elle m'a fait peur. Ça m'a fait peur ce moment-là, parce qu'en réalité, je me suis dit rétrospectivement, si j'avais été ailleurs dans le questionnement suivant, etc., j'aurais pu laisser passer. Bon, c'était compliqué de laisser passer ce qui s'est passé sur le plateau.
Ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, on a salué votre réactivité. On a dit aussi que vous auriez pu aller beaucoup plus loin.
Alors, j'ai eu un arbitrage assez rapide en étant direct. J'ai pas voulu en rajouter. Et je vous remercie de m'interroger là-dessus, parce que j'ai jamais reparlé de cette séquence-là qui m'a énormément marqué parce que je lui en voulais terriblement d'avoir mis en risque l'émission. Parce que si j'avais pas réagi, c'est dans l'air qu'on abîmait. C'était moi, c'était l'ensemble des chroniqueurs de cette émission qui étaient là et qui avaient porté un propos très mesuré. Cette émission, elle était compliquée à faire, on avait beaucoup hésité à la faire. On est sur des thématiques, moi, qui me touchent énormément, où je pense qu'on a une vraie responsabilité dans les mots qu'on choisit, dans le message qu'on fait passer.
Et puis, une fois que Bamboula a été dit, il faut conduire le débat jusqu'au bout.
Alors,
et la parole de votre invité, elle se trouve de fait disqualifiée.
Et ben, jusqu'à la fin de l'émission, j'avais les mâchoires serrées et j'ai attendu la fin de l'émission pour lui dire ce que j'avais pensé de ce moment-là et pour lui dire à quel point c'était inqualifiable, inacceptable et à quel point j'avais été marquée et pas blessée, c'est pas le mot, mais j'étais en colère. Donc si vous regardez, si vous faites le replay, si vous avez rien d'autre à faire de cette émission, jusqu'à la fin de l'émission, je suis dans un état de sidération. Que la parole, vous savez, on est dans un moment, moi, que je trouve assez flippant parfois, où la parole est déboutonnée, où les mots, pour être entendus, il faut parler très fort, de plus en plus fort, avec des termes d'une violence inouïe, il faut des formules qui claquent, etc. Et ce que j'aime dans C'est dans l'air, c'est que la parole, elle est maîtrisée, et que il y a un usage du concept, du mot, parfois même de la syntaxe, qui fait qu'à un moment donné, on rebaisse le niveau.
Alors oui, en effet, et en même temps, du coup, on vous a reproché une forme d'homogénéité idéologique de vos débatteurs, qui ne sont pas des chroniqueurs, qui sont des éditorialistes et des experts, qui sont jamais totalement à l'extrême gauche, ni jamais totalement à l'extrême droite.
Ce qu'on évite sur le plateau de C'est dans l'air, c'est que les gens ne se parlent pas et que les gens ne s'écoutent pas. Parce que ça se fait parfois ailleurs, il y a du débat, il y a de l'invective, on hausse le ton. Nous, sur C'est dans l'air, ce qu'on essaie de faire, et je vous assure que l'équilibre des forces et l'équilibre politique, on y veille. Mais on met rarement en présence des personnes qui ont des positions radicalement opposées. Pourquoi ? Parce que ça n'est plus C'est dans l'air, parce que c'est une émission de débat où chacun arrive avec son propos, avec sa ligne, et en réalité, on n'avance pas sur la pédagogie.
Parallèlement, les chaînes d'infos ont fait monter ces débats-là, pile en face de vous, d'ailleurs.
Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Mm-hmm. Et chaque jour, je m'honore de me dire on va plutôt laisser place à l'intelligence. Hier, on a fait une super belle émission. C'était sur... Non, mais pardon de vous faire un peu l'article, mais c'est de l'enthousiasme. C'était sur la France FN et la France Macron, après ce qui s'était passé chez Whirlpool. Et on avait un géographe qui était là et qui nous a aidé à comprendre. Voilà, je sors de cette émission plus riche que je n'y suis entrée, donc ça, c'est une chance.
Alors, par ailleurs, ce qui est intéressant aussi. La critique, elle vous a été faite il y a longtemps. Vous étiez déjà le Joker d'Yves Calvi, hein, je le précise pour ceux qui s'en souvenaient pas. Mais en même temps, c'est un thème qui a tellement surgi et tellement envahi la campagne électorale. Vous réunissez des éditorialistes et des experts, c'est-à-dire ceux précisément sur lesquels on a le plus tapé. C'est-à-dire les détenants d'un savoir supposé être coupé de la réalité, privant les paroles, les Français d'une vraie parole et d'une vraie vie, confisquant finalement le savoir du quotidien.
Alors je sais pas, qui vous mettez dans cette catégorie-là, si ce sont les journalistes ou si ce sont... Parce que ce qui est intéressant sur C'est dans l'air, c'est qu'on a un mix, c'est-à-dire qu'on a à la fois des journalistes qui sont quand même, pardon, pour certains, au contact parfois du terrain, et puis on a des universitaires, on a des historiens, on a des géographes,
un Manuel Valls a pu dire expliquer, c'est déjà excusé, ça vaut pour les universitaires, et que vous êtes le système en parlant des journalistes alors qu'il était lui-même Premier ministre, on voit bien que les deux se sont télescopés.
Vous avez raison, et on a conscience de ça, et si vous êtes attentive à l'émission, très souvent, quand certains des journalistes ou des experts ont une parole trop péremptoire, je les calme tout de suite, en leur rappelant, par exemple, le Brexit, par exemple, ce qui s'est passé lors des élections américaines avec Donald Trump. Donc, en fait, on a tous baissé d'un ton. Il reste qu'ils ont une expertise. Ce ne sont pas des gens qui sont hors sol, qui d'un coup seraient décrédibilisés parce qu'ils n'ont pas vu venir ce qui s'est passé dans le pays. Ils gardent une expertise. Mais je pense qu'ils font désormais leurs commentaires et leurs analyses avec un peu plus d'humilité. Et ce n'est pas grave, et ce n'est pas mal.
Bon, alors, Caroline Roux, tout à l'heure, sur France 5 à 17h45, c'est dans l'air. Et vous reviendrez parce qu'on parlera de votre interview politique du matin qui s'appelle Les 4 vérités et qui est à 7h45.